Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi.
Les vraies voix des entrepreneurs sur Sud Radio à 19h27, bienvenue à vous qui nous écoutez et bienvenue à nos deux entrepreneurs, Julien Lozano, fondateur de la plateforme de location immobilière Wheezy.
Bonsoir Philippe.
Bonsoir mon cher Julien. Emmanuel Lafont en face de vous, fondateur du cabinet de conseil Sparter H.
Bonsoir.
Bon, Philippe. Bonsoir à vous, tout le monde va bien. Le programme est chargé, je vous le dis ce soir, dans quelques minutes, nous vous présenterons Alain Rétière qui sera avec nous, qui a fondé Trade Booster. Alors, il a eu une très très bonne idée, il est en plateau avec nous, bonsoir à vous, puisqu'il propose à des PME de vendre, mais aussi d'optimiser les ventes de leurs produits dans les marketplaces. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une marketplace, vous le savez en fait, que c'est, vous les connaissez, c'est tout simplement Amazon par exemple, ou encore Cdiscount. Il nous expliquera concrètement ce qu'il fait, ce qu'il propose, comment il le fait, et puis surtout, il nous racontera son parcours évidemment, puisque c'est toujours très intéressant de connaître le parcours d'un entrepreneur, très motivant également. Mais dans l'immédiat, j'aimerais vous présenter un tout jeune patron. Il a créé une boisson relaxante qui s'appelle Relax, constituée d'une quinzaine de plantes, boisson naturelle qui a été produite au jardin de l'Orbry à Bressuire, c'est dans les Deux-Sèvres. Ce jeune entrepreneur s'appelle Raphaël Collin, il est avec nous ce soir. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à vous. Bonsoir Raphaël Collin. Bonsoir. Alors, vous avez 27 ans Raphaël, racontez-nous déjà, qu'est-ce qu'il y a dans votre boisson? C'est une boisson relaxante, rassurez-nous, il n'y a pas de CBD parce que c'est la mode en ce moment. Hein.
En effet, c'est la mode le CBD, ouais. Mais non, il n'y a pas de CBD, il y a une quinzaine de plantes différentes, comme par exemple de la valériane, de la passiflore, du houblon, du coquelicot. Donc c'est une boisson assez complète, assez différente de ce qu'on trouve actuellement. Et puis qui permet donc de détendre, de relaxer, et puis en même temps est très agréable à boire.
À boire. Alors c'est très original parce que souvent on a des boissons qui stimulent. Hein. Bon, la célèbre boisson rouge évidemment, puis il y a le Red Bull aussi. Il y a d'autres boissons comme ça. Non, vous avez choisi une boisson relaxante. Alors il faut la boire quand cette boisson? On peut la boire par exemple le soir avant d'aller se coucher, par exemple.
Voilà, par exemple avant d'aller se coucher.
Pas avant d'aller au travail, après... j'imagine.
Vaut mieux pas.
Non, c'est pas recommandé, non.
Ça dépend du travail.
Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ça dépend du travail, ouais. Comment vous avez eu l'idée de créer une boisson relaxante? Comment ça vient d'un coup de se lever un matin, de se dire je vais créer une boisson qui va nous détendre?
Bah, y a eu un boom des boissons énergisantes et je me disais il n'y avait pas de boisson relaxante et pourtant beaucoup de gens étaient soumis à des situations de stress. Donc je me suis dit, on va essayer de créer un produit, une boisson en particulier, pour aider les gens à combattre le stress. Voilà.
Bon.
C'est une boisson fraîche ou c'est une boisson chaude?
C'est une boisson fraîche qu'on a créée avec des médecins, des chercheurs, des pharmaciens, et qui permet vraiment de détendre, de procurer un bien-être à l'organisme.
Ouais, boisson fraîche qui n'est pas pétillante.
Exactement, une boisson plate, sans alcool... tout ce qu'il y a de plus simple, mais en même temps, elle est assez complexe par sa composition.
Ouais. Bon, alors, un petit mot, Julien Lozano. Vous connaissiez Relax ou pas?
Non, je ne connaissais pas.
Bon, ça a été inventé, déposé il y a quelques mois, donc c'est normal que vous ne connaissiez pas encore.
Donc, des boissons chaudes, relaxantes, je pense qu'il
y en a. Ah bah oui, ça, on en connaît, oui.
notamment les tisanes. Je crois que là, l'originalité, c'est effectivement d'avoir une boisson fraîche. Moi, je pense qu'il ne faut pas la boire, cette boisson relaxante fraîche, uniquement avant d'aller se coucher, mais effectivement, pour faire face à quelques situations de stress, et je trouve que c'est une très bonne idée.
Ouais. Emmanuel Lafont,
moi,
Relax,
j'adore.
Pareil, vous ne connaissiez pas?
Non, je ne connais pas, et j'adore la démarche. C'est-à-dire que tout le monde regarde dans une direction les boissons
énergisantes. Ouais,
et la super bonne idée de l'entrepreneur qui fait, si tout le monde regarde à droite, je vais quand même voir ce qui se passe à gauche.
c'est l'esprit de contradiction.
Et on fait, génial, super. Et tu sais quoi? J'ai hâte de la goûter, celle-là.
Et il va nous envoyer Raphaël Collin, tiens, la Rédière... pareil, vous ne connaissiez pas, j'imagine.
Pas du tout.
Relax. Vous serez le bon client, tiens, le bon profil. Vous
je
êtes du genre
pas
à.
Très non, lié non. au stress, donc non.
Bon, voilà. Ouais. Il est bon cool, client, Alain. Ouais. Il est détente.
Mais voilà, mais après tout, je pense que c'est une excellente idée, effectivement, de voir un marché et de regarder, effectivement, dans le sens opposé.
C'est vrai, quand on est entrepreneur, c'est ça, c'est Julien Lozano. Il faut avoir la bonne idée.
Et puis la réalité, c'est qu'il y a quand même un marché en France, parce que vu le nombre d'antidépresseurs qui sont vendus chaque année, je pense qu'effectivement, des alternatives aux antidépresseurs, en plus 100% naturel, c'est forcément une bonne idée.
Raphaël Collin, quand vous avez eu cette idée, j'imagine que ça a été très difficile, ou peut-être pas, est-ce que ça a été difficile, compliqué de monter? Il a fallu trouver une usine pour produire cette boisson. Comment vous y avez mis beaucoup d'énergie? Racontez-nous les différentes étapes.
Bah déjà, ça a été difficile de trouver une recette, de composer cette boisson pour qu'elle soit agréable à boire et en même temps qu'elle ait vraiment des vertus relaxantes. Et ensuite, en effet, donc comment se procurer toutes les plantes qui sont dans la boisson et qui sont parfois assez difficiles à trouver. Et ensuite, trouver une usine de production, comme vous le disiez, qui permettait de fournir les bouteilles, de faire la préparation, la pasteurisation qui permet de conserver la boisson longtemps. Il n'y a pas beaucoup d'usines en France qui permettent de faire des produits innovants comme celui-ci. Donc, on a beaucoup recherché quelque chose qui pouvait répondre à nos besoins. On a trouvé une usine donc, dans l'ouest de la France. On produit aussi en France, et ça, on en est très fiers. Et donc, c'est là-bas qu'on a fait tout ça. Et la boisson est sortie maintenant de cette usine il y a quelques mois.
Où on peut la trouver, cette boisson ? Sur Internet uniquement ?
Alors, on a commencé via... on a fait un crowdfunding et elle est en vente sur notre site relax.com. Ouais. Mais sinon, après, le but, donc, c'est de trouver des distributeurs. On est déjà présent dans une dizaine de bars et de restaurants, en particulier à Paris. Et on commence dans quelques supermarchés. Il y a deux magasins Leclerc qui ont commencé à distribuer notre boisson.
Comment ça se passe dans ces cas-là ? Pour les bars et les restaurants, j'imagine que vous y allez au culot, vous rentrez dans les restaurants et vous leur proposez la boisson ? Ça se passe
voilà,
comme ça ?
C'est ça. Ouais. Soit on y va physiquement, soit on les appelle, soit on envoie des mails ou via Instagram. On essaye d'être à l'affût des restaurants, des bars qui essayent de proposer un peu des nouveautés et on les contacte et on espère qu'ils vont apprécier et qu'ils vont essayer de la proposer dans leur établissement.
Ouais. Et pour le magasin Leclerc, là, bon, j'imagine que ça a été peut-être un petit peu plus long, un petit peu plus laborieux pour qu'une grande enseigne accepte de mettre Relax dans ses rayons.
Ouais, c'est un peu plus compliqué, mais si on passe par des supermarchés en direct, le chemin n'est pas si long. Après, si on passe par des centrales d'achat qui sont au-dessus des supermarchés et qui fournissent les supermarchés en gros, là, ça devient plus compliqué. On a eu un entretien là en novembre avec la centrale d'achat d'Île-de-France des magasins Leclerc, et là, le processus est beaucoup plus complexe pour faire accepter ce produit via ce type de structure.
Ouais. Tiens, qu'est-ce que vous inspire le parcours de Raphaël Collin, Emmanuel Lafont?
Moi, je suis admiratif. Ouais. J'adore les gens qui ont décidé de vivre leurs rêves. Voilà, ouais. Exactement. Et ça, c'est super. Moi, je suis fan. J'ai qu'une hâte à découvrir. Et je pense d'ailleurs qu'on va lui trouver...
Vous auriez pu, vous, Emmanuel Lafont, voilà, vous lancer comme ça dans la production de boissons ou de gâteaux
Ouais, il faut juste avoir l'idée, en fait.
Ouais.
Moi, j'accompagne
que vous n'avez
les gens
pas eu donc.
Comme ça, voilà. Bah, soit t'as des idées, soit t'as de la méthode.
Il faut avoir les idées, il faut aussi avoir le courage parce que se lancer dans l'industrie, c'est quand même autre chose que se lancer dans le digital. Ça demande des investissements, ça demande des compétences, ça demande de la logistique. Moi, je suis toujours très admiratif, effectivement, des entrepreneurs et encore plus des jeunes entrepreneurs qui font le choix de se lancer dans la production de produits tangibles. Voilà, ça a de la gueule, bravo.
Tiens, il y a un moment où vous aviez été découragé, Raphaël Collin, où vous avez dit bon, je ne veux pas y arriver, allez, je vais laisser tomber.
C'est une bonne question. Au début, pour obtenir des financements, ça n'a pas été facile. Quand on toque à la porte des banques, j'ai eu plusieurs refus. Et ensuite,
pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas convaincus, elles n'étaient pas convaincues par Relax ? C'est essentiellement pour ça ?
Pour moi, les personnes pouvaient être convaincues, mais c'est difficile en fait... en termes de risque, d'aider des jeunes entreprises comme ça, avec un seul fondateur, il n'y a pas d'associés, il y a assez peu de fonds propres. Donc, c'est un risque pour les banques qu'elles ne sont pas toujours prêtes à prendre. Pourtant, moi-même, j'ai travaillé dans un monde bancaire, donc j'ai essayé de présenter au mieux le dossier, mais ça ne passe pas toujours. Et en fait, donc, l'élément déclencheur, ça a été que BPI France nous accorde la bourse French Tech, qui est un peu labellisée... l'innovation, et ensuite d'autres banques ont décidé de nous suivre parce que BPI France nous suivait, parce que BPI France garantissait une partie du prêt. Donc au début, un peu de découragement, mais en persévérant, finalement, on a réussi.
On y arrive.
Et sinon, pour les financements, on entend beaucoup parler de levée de fonds. Au début, c'est assez difficile de lever des fonds, en particulier quand on n'est pas dans la tech purement. Et donc, c'est via des circuits un peu plus classiques qu'il faut essayer d'obtenir ces financements, c'est pas toujours simple, mais je pense qu'on peut y arriver si on est persévérant.
Ouais. Alors, je voyais, quand vous parliez des banques, Emmanuel Lafond, je le voyais s'agiter là, derrière son micro. C'est un problème, ça, les banques, Emmanuel Lafond.
Oh, je vois pourquoi tu dis ça. Non, mais moi, ce qui me fait doucement sourire, c'est que lui-même dit qu'il est issu du système bancaire.
Bah oui.
Et il s'est fracassé dès qu'il est passé de l'autre côté du bureau. Et il faut saluer d'ailleurs le courage des banques, hein, qui n'hésitent pas à suivre les entreprises, pour peu que la BPI ait déjà validé le projet, se porte garant, voilà, tu as une analyse de sang en plus, quand c'est pas pire.
Il est très ironique, donc, Emmanuel Lafond, ce soir.
Mais ce qui est vraiment Julien triste, c'est qu'en fait, une banque, elle s'intéresse jamais, ou très rarement, au projet de l'entrepreneur, elle s'intéresse au risque qu'elle va prendre.
Ouais.
Donc effectivement, une fois que la BPI a mis déjà une partie de fonds propres, donc ce qu'on appelle la BFT, donc c'est la branche French Tech, pardon, c'est 35 000 euros, si je dis pas de bêtises, évidemment, derrière, c'est un peu plus facile d'y aller. Donc en fait, quand on n'a pas besoin des banques, c'est là où il faut les solliciter.
Ouais. Tiens, à la Rétière, vous avez des problèmes, vous aussi avec les banques, vous reconnaissez dans le profil de Raphaël Collin, c'était compliqué aussi pour Trade Booster.
On le fait sur fonds propres et puis on n'est pas dans l'industrie, on est dans du service, full service, donc c'est beaucoup plus simple en fait.
Comment vous imaginez la suite? Quelle ambition vous avez, Raphaël Collin?
Là, le but, c'est de trouver de plus en plus de clients. Par client, j'entends des bars, des restaurants, des supermarchés, des gens qui apprécient notre boisson, qui sont prêts à la proposer chez eux. C'est comme ça que les gens vont commencer à la connaître et à l'apprécier, on l'espère. De plus en plus aussi.
Alors, on va vous présenter Alain Rétière qui peut se charger de vendre votre boisson sur les marketplaces comme Cdiscount ou Amazon, par exemple.
Oui, ou en tout cas, vous donner des conseils sur la stratégie digitale sans aucun problème.
Ça vous intéresse, Raphaël Collin?
Sur moi, l'expérience que j'ai avec les marketplaces, j'en ai essayé deux, c'est Amazon et Anchor Store.
Ouais.
Et moi, l'expérience que j'en ai, je suis sorti d'Amazon parce que si on paye pas beaucoup en publicité, on n'est pas connu. En plus, pour un produit comme le mien, les gens veulent souvent l'avoir goûté avant de commander. Donc, il y a quelque chose lié à la dégustation. C'est difficile de passer une grosse commande directement. Et si c'est des marketplaces qui fournit des professionnels, des bars, des restaurants comme Anchor Store, par exemple. Si on n'a pas déjà ces clients qui nous ont fait confiance, je trouve que c'est difficile de les trouver directement via ces plateformes. Et donc, moi, mon expérience avec ces marketplaces est assez décevante pour l'instant.
Ouais, mais c'est parce que vous ne connaissiez pas encore Alain Rétière. On va vous le présenter, on va vous mettre en contact. Merci en tout cas beaucoup, Raphaël Collin. Franchement, félicitations, Emmanuel Lafond. Alors, on va goûter évidemment à votre boisson relax le soir.
Merci beaucoup.
Vous nous direz, Julien Lozano. Si vous êtes un peu moins excité à
avoir vu cette boisson. Ça me permet de gérer mon stress.
Merci beaucoup, Raphaël Collin. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. Restez avec nous dans un instant. Eh bien, voilà. On va discuter avec Alain Rétière, le fondateur de Trade Booster, qui donc propose, vous l'avez compris, de vendre vos produits sur les marketplaces Amazon, Cdiscount, il y en a d'autres. C'est devenu incontournable. Alain Rétière qui nous explique tout dans une poignée de minutes. Julien Lozano, Emmanuel Lafond qui restent avec nous. Et merci encore à vous, Raphaël Collin. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi.
Vous écoutez les vraies voix des entrepreneurs sur Sud Radio avec Julien Lozano, fondateur de la plateforme de location immobilière Wheezy, avec le fondateur du cabinet de conseil Sparter H, Emmanuel Lafond. Tiens, est-ce que vous allez souvent dans les marketplaces, Julien Lozano, Cdiscount, Amazon?
Oui.
Ne vous excusez pas, hein. C'est pas grave. Emmanuel Lafond, pareil, vous...
Oui.
Vous avez une application Amazon, par exemple, sur votre portable?
Non, j'ai pas d'application Amazon. Non, j'y vais quand j'ai vraiment besoin.
Ouais.
Et honnêtement, j'aime bien l'envers du décor. C'est-à-dire que moi, j'accompagne deux startups qui sont des marketplaces, qui sont Wislow et Les Échoppes. J'ai découvert au travers d'un programme que j'anime qui est Pitch Créa du développement économique de Courbevoie. Et c'est des petits start-upers que j'adore et c'est des programmes magnifiques et je vous invite à les retrouver.
Eh bah, très bien. Très bien. Alors, c'est vrai que pour des PME, ces marketplaces sont importantes parce que d'abord, une part, c'est une bonne visibilité. Pour leurs produits et puis surtout grâce à ces marketplaces, eh bien, ces PME peuvent augmenter les ventes de leurs produits. Alain Rétière est avec nous et justement Alain Rétière, bonsoir, vous avez fondé Trade Booster et vous vous proposez donc de vendre les produits de ces PME, d'optimiser les ventes, de les accompagner dans la stratégie aussi, j'imagine. Alors concrètement, je suis une PME, je vends des gâteaux par exemple que je fabrique. Qu'est-ce que vous me proposez?
Concrètement, en fait, ce qu'on propose, c'est de prendre en charge la commercialisation en fait, des produits des PME sur les marketplaces. Donc pour ça, on va avoir globalement deux typologies de clients. Les premiers qui sont déjà en train de vendre sur les marketplaces, mais qui ne sont pas satisfaits des résultats. C'est quand même 6 entreprises sur 10 en France. Et là, on va tout simplement optimiser leur visibilité et donc forcément leur vente. Et puis enfin, on a aussi ceux qui n'y sont pas encore. Et là, on va ouvrir pour eux leur compte, on va créer leur fiche produit, on va créer leur discours marketing et on va mettre tout en place pour qu'ils commencent à bien vendre sur les marketplaces.
Parce que c'est vrai que ces 6 entreprises sur 10 qui ne sont pas satisfaites des marketplaces, le problème c'est quoi ? C'est qu'elles n'y mettent pas assez d'énergie, c'est vraiment un... c'est pas un travail à mi-temps pour le coup, j'imagine, il faut vraiment s'investir.
En fait, c'est vraiment, on va dire, la contre-pub des marketplaces. On dit on peut vendre en un clic. La réalité, c'est oui, on peut monter, effectivement, ouvrir son compte sur Amazon ou sur Cdiscount en un clic. Par contre, après, vendre, c'est un autre débat. Ouais. Tout simplement, il y a 250 millions de produits référencés sur Amazon. Donc, quand vous êtes parmi 250 millions de produits, si vous ne savez pas comment fonctionne l'algorithme, quels sont tous les leviers d'optimisation qui permettent que votre fiche remonte en fait, dans les recherches, eh ben, vous êtes perdu dans les fins fonds des rayons et de toute façon, vous ne vendrez pas.
Oui, Julien Lozano.
Dans le commerce, on a coutume de dire qu'il y a 3 règles pour que ça fonctionne. C'est l'emplacement, l'emplacement
et l'emplacement.
Et je crois que dans le digital, c'est tout aussi vrai.
Emmanuel Lafont, vous avez des clients que vous avez cités. C'est compliqué les marketplaces
C'est super compliqué parce qu'on se dit ouais, génial, c'est l'Eldorado, je vais pouvoir vendre, j'ai pas besoin d'avoir de pas de porte ni rien. C'est un autre métier en fait, c'est complètement différent du commerce traditionnel et c'est une super voie d'opportunité, mais pour ça, il faut s'appuyer sur des professionnels.
C'est ça. Alors justement, comment vous est venue l'idée, Alain Rétière? En fait, comment est née l'idée?
C'est une complémentarité d'expertise et d'expérience entre deux amis de longue date, hein, puisqu'en fait, le cofondateur de Trade Booster, Olivier Scamps, a démarré à vendre lui-même sur Amazon en 2009. Et puis, il a commencé à conseiller des amis, puis qui sont devenus des clients, et tout en continuant son business de vente directe. Moi-même, j'ai un parcours en fait plutôt en grande entreprise, groupe anglo-saxon, mais dans la vente de services et de prestations d'externalisation. Et à force, simplement, début 2020, on s'est dit que le e-commerce était en plein boom. On s'est dit que les marketplaces allaient prendre de plus en plus d'importance en fait dans ce e-commerce. Et on s'est décidé à créer un service pour aider effectivement les PME à vendre tout simplement sur ces marketplaces.
Et ça marche bien aujourd'hui, Trade Booster ?
Ah, ça marche très bien. Depuis maintenant, donc on a démarré on a démarré en avril 2020.
Oui, premier confinement.
Avec, voilà.
Le centre de la propagande.
Exactement. Et depuis, on a grandement augmenté notre expertise puisqu'on est la seule agence en France à être agréée par Amazon, Cdiscount et Rakuten. Qu'on a aujourd'hui une vingtaine de clients dans des secteurs aussi divers que la vente de CD, de vin, de DVD, de parapharmacie, de couettes. Et tout
donc ça.
Donc ça
a été vite en fait pour Trade Booster. Attends, c'est vrai quand on. Parce que vous étiez salarié, si j'ai
tout
bien compris.
Fait, oui.
Quand on passe de salarié à entrepreneur, Julien Lozano et Emmanuel Lafont, au début c'est compliqué. On ne se paye pas tout de suite, on prend des risques. Ça ne marche pas tout de suite, hein, Emmanuel Lafont. C'est compliqué.
Alors attention, on a un truc qui est vachement bien. C'est la preuve de l'existence de Dieu dans le business, comme disait. Etienne Krieger, HEC, c'est tout simplement le chômage.
On peut monter son entreprise tout en touchant à l'allocation chômage.
Voilà.
C'est vrai.
Mais après, par contre, ça peut être un peu vertigineux. Ouais, si on prend trop de confort dans la fonction et qu'on oublie qu'il faut faire du chiffre. Voilà. Mais en tout cas, félicitations pour le pitch. Magnifique. Ouais, celui-là, super beau.
Julien, vous avez galéré, quand vous avez monté Wheezy?
Je serai incapable de vous dire, pour la simple et bonne raison, que je n'ai jamais été salarié. J'ai créé mon entreprise à 23 ans, donc je n'ai pas eu cette chance ou cette malchance.
Mais est-ce que vous avez connu la galère de l'entrepreneur qui passe du temps à se payer,
la galère,
qui bosse jour et nuit?
Oui, mais sauf qu'on ne le voit pas du tout comme une galère. Ou si on le voit comme une galère, il faut changer peut-être de métier. C'est-à-dire que la voie n'est pas la bonne. Moi, quand j'ai créé ma première société, qui était donc une agence immobilière spécialisée dans le logement étudiant, je vivais et je dormais dans mon agence immobilière parce que je n'avais pas les moyens en fait, d'avoir... un pas de porte, louer un local commercial et en même temps d'avoir un appartement. Mais je crois que c'était les meilleures années de ma vie d'entrepreneur. Donc je le vois pas du tout comme quelque chose qui était dur, au contraire, comme quelque chose qui était très motivant et très excitant.
L'ambition, pareil, à la Rétière, j'imagine que c'est d'avoir de plus en plus de s'agrandir, d'avoir de plus en plus de clients, de gros clients évidemment.
Non, en fait, on a vraiment un ADN de PME, on cherche surtout pas les grands groupes, peut-être parce que j'y ai beaucoup trop travaillé.
Peut-être.
Donc on a vraiment un ADN de PME, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'avantage c'est qu'on parle tout de suite en fait aux décideurs ou aux créateurs. En fait, on parle d'entrepreneur à entrepreneur. Et comme on a quand même une forte appétence au conseil aussi en stratégie digitale globale pour leur apprendre ce que c'est que ce monde-là, parce que finalement c'est un monde que les gens connaissent peu. On a vraiment cette volonté de rester sur la PME et de rester sur une taille humaine. On cherche pas, on n'a pas si l'âge à avoir des ambitions à 27 ans de conquérir le monde. On est plus dans un bon équilibre entre entre vie personnelle, tout simplement.
Ouais. Vous avez raison, vous avez raison. Dans une dizaine d'années, il n'y aura que ça, vous pensez, des marketplaces ?
Ben, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde, vous avez 1 million de sites e-commerce, donc qui vendent des produits. Que sur ces 1 million, vous avez 15 000 marketplaces, donc qui ont ce modèle marketplace, ce qui représente 1,5% finalement de l'ensemble des sites e-commerce. Sauf qu'aujourd'hui, elles font déjà 50% du chiffre d'affaires du e-commerce. Gartner Predict annonce que pour l'année prochaine, c'est 70%. Donc aujourd'hui, c'est un incontournable dans le e-commerce, les marketplaces, et c'est un modèle qui est en train de révolutionner clairement ce métier-là. D'ailleurs, il suffit de regarder tous les grands sites et toutes les grandes marques, que ce soit Carrefour, que ce soit Decathlon, Darty, ils sont tous passés au modèle marketplace, de toute façon. Parce qu'ils savent que s'ils veulent effectivement garder leurs visiteurs, il faut qu'ils agrandissent en fait le panel. Et la meilleure façon d'agrandir le panel sans en mettre de l'argent, bah, c'est faire de la marketplace, puisque la marketplace, c'est du dépôt-vente. Et on prend une commission au passage, tout simplement, sur tout ce qu'ils vendent.
Qu'est-ce que vous dites, par exemple, aux petits commerçants hein, on les entend souvent pousser des coups de gueule sur ces grandes marketplaces, notamment Amazon. Qu'est-ce que vous leur dites ? Essayez de vous y mettre parce qu'à l'avenir, ce sera vraiment incontournable.
Alors, Amazon est en fait a une particularité parce qu'Amazon en fait, est devenu plus qu'une marketplace. C'est devenu en fait un média. Clairement, aujourd'hui, Amazon a dépassé Google en France en recherche de produits. C'est-à-dire que le premier moteur de recherche en France, c'est Amazon. Pour les produits. Et donc, globalement, pour n'importe quelle marque, il faut absolument être sur Amazon, en considérant que c'est un média, à la limite comme Sud Radio ou comme TF1, mais c'est un média où on peut faire de la pub avec un ROI positif, c'est-à-dire en gagnant de l'argent. Par contre, ne pas y être, c'est un tort parce qu'on perd 57% des acheteurs réguliers
c'est
sur
fou,
Internet.
Hein. Oui. Les GAFA,
On ne peut pas ne pas y être. Et
Moi,
ce qui m'interpelle le plus dans ce que vous dites, c'est qu'on a cette fausse impression que quand on est e-commerçant, il suffit de s'inscrire sur une plateforme comme Amazon pour vendre, et que donc, on a réussi d'une manière ou d'une autre à éviter les intermédiaires. Et en fait, ce que dit monsieur, c'est que non. Il faut en fait justement des intermédiaires qui ont un vrai savoir-faire et qui sont en capacité justement de mettre en valeur ces produits. Donc en fait, on revient, j'ai l'impression, à ce qu'on faisait de manière un peu plus physique dans le digital.
C'est ça. Alain Rétière, donc fondateur de Trade Booster. Restez avec nous, Alain Rétière. J'aimerais qu'on accueille Denis Jacquet. Je vous le présente si vous ne le connaissez pas.
Non, enchanté.
C'est le roi des entrepreneurs, Denis Jacquet. Il est à Miami. Bonsoir, Denis.
Le roi. Oui. J'adore le roi. Un peu plus de Courbette, comme ça je vous appellerai.
Denis Jacquet,
je vous appellerai Philippe Courbette.
C'est gentil. Denis, je ne l'avais jamais fait. C'est gentil. Denis Jacquet, entrepreneur fondateur du Day One Movement. Alors, si on vous accueille ce soir, Denis Jacquet, et toutes nos félicitations, puisque vous avez remporté le prix Nobel de la paix en Asie, le Gussie Prize. Alors, qu'on comprenne bien, qu'est-ce que le Gussie Prize, mais juste avant, qu'est-ce que le Day One Movement que vous avez fondé il y a quelques temps? Expliquez-nous.
En fait, l'idée, après les aventures entrepreneuriales, je me suis régalé en écoutant nos trois amis là sur le plateau.
Ouais.
Je me rappelais d'un petit épisode quand on parlait de galère, où c'était ma 3e ou 4e boîte. Je vivais au Maroc et il y a eu 3 ans pendant lesquels, une fois sur deux, je pouvais pas rentrer en France voir mes enfants. Pourquoi ? Parce que j'arrivais pas à me payer un billet d'avion.
Ouais.
Et effectivement, ce qui différencie peut-être l'entrepreneur des autres, c'est qu'en fait, c'est une galère absolue. Mais on pense qu'on va passer à travers. Et en fait, c'est ça la grande différence. Là où certains, malheureusement, baissent les bras parfois jusqu'à des extrémités. Donc, le Day One Movement, en fait, c'était l'idée du processus de l'Observatoire de l'ubérisation de Paris Nacroissance. C'était un mélange de tout ce que j'ai pu faire en France pendant 10 ans et de dire qu'à un moment donné, c'est les entrepreneurs qui pouvaient véritablement changer la société beaucoup plus vite que les gouvernements et qu'on allait les réunir dans un grand événement, leur faire prendre des décisions et arrêter de les faire blablater sur ce qu'ils font jamais, mais les faire agir sur des résultats concrets. Et donc, on a monté ça. Donc, du coup, il y a l'événement maintenant qui va être au Brésil et en Afrique, en plus de la France. Il y a des groupes de travail par 6 qui prennent des décisions et qui les appliquent à leurs salariés, donc en espérant toucher des millions de personnes à terme sur différents sujets, l'impact sur les jobs, l'impact sur l'environnement, l'impact sur les territoires, enfin, tout ce qu'on connaît tous les jours. C'est-à-dire donner un rôle sociétal à l'entrepreneur qu'il a sans le savoir, hein, un peu comme Monsieur Jourdain avec sa prose. Et puis de l'autre côté, des clubs, parce qu'on ne se refait pas, moi j'adore ça, donc même ici aux États-Unis, je suis rentré en French Founders, parce que je n'avais pas le temps de m'y intéresser avant, qui est juste un super club et très très sympa. Et puis la fondation, la fameuse fondation qui m'a valu ce prix, certainement que je ne mérite pas encore, mais que j'espère mériter d'ici quelques temps, et qui est en fait qui va nous permettre de monter en 3 ans le plus gros baromètre d'anticipation de la mutation des jobs dans le monde. C'est-à-dire de rassembler une data que personne n'a jamais rassemblée, la traiter par un seul outil algorithmique super complexe à monter, parce que c'est une data monstrueuse à l'échelle du monde qu'il faut faire. Ça va nous prendre 2 ou 3 ans, mais on va avoir des étapes avec des livrables qu'on va vraiment pouvoir montrer à la presse, aux commentateurs, au gouvernement, aux entreprises, petite étape par petite étape. Mais c'est le seul outil qu'il y aura au monde aujourd'hui pour être capable de prédire comment les jobs de tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont changer ou disparaître ou être profondément modifiés, et d'anticiper pour éviter effectivement que demain on se retrouve dans une
situation. Alors à combien d'années on peut anticiper ? C'est à 10 années par exemple ?
Là, avec l'outil tel qu'on l'envisage aujourd'hui, on serait capable, d'ici 3 ans, d'anticiper pratiquement à moins d'1 ou 2 ans, par territoire, par industrie et par typologie de compétences. Donc, ça serait un outil juste hallucinant, sachant qu'avant le Covid, on pensait qu'on avait 5, 6, 7, 8 ans pour se retourner, l'automatisation, etc.
Oui, là, c'est beaucoup plus rapide.
Le Covid fait que les investissements dans l'automatisation sont tels qu'on pense qu'on a moins de 5 ans.
Alors, en fait. Julien Lozano, c'est une bonne nouvelle, Emmanuel Lafond, pour les entrepreneurs, puisqu'ils savent que dans 1 an et demi, 2 ans, il va falloir changer, prendre telle ou telle direction.
Oui, et puis effectivement, on voit qu'il y a une véritable accélération de la digitalisation. Ça va probablement beaucoup plus vite que ce qu'on avait pu anticiper. Donc je pense que c'est un très bon outil d'aide à la décision.
Oui. Et Emmanuel Lafond, vous le constatez que ça va très vite en ce moment ?
Ça va de plus en plus vite. Maintenant, en France, on a les champions du monde de l'entrepreneuriat. Ouais. La preuve, c'est qu'on les exporte même à Miami. Ouais. C'est surtout qu'avec les règles qui changent tout le temps, les taxes qui changent tout le temps, le droit qui change tout le temps, on a l'habitude de s'adapter tout le temps. Donc c'est pratique. Nous, on est des winners là-dessus. On va y arriver.
Ouais. Le Gussie Prize, donc, voilà, vous étiez lauréat. Je me souviens de ce message en septembre. Vous avez annoncé que vous étiez lauréat. Quelques semaines plus tard.
C'est marrant parce que c'est un prix qui a été monté en Asie, qu'on connaît très peu en Europe, mais même aujourd'hui, les gens du Nobel, du vrai Nobel qu'on connaît, nous, Européens, s'y rendent régulièrement. Et donc, non seulement je suis très fier parce que je suis le premier Français en 12 ou 13 ans d'existence du prix, et puis on avait une promo là de 10, et on était quasiment sur 17 entrepreneurs, ce qui montre bien que le monde entier, dans tous les pays, j'avais des Indiens, des gens de partout, on compte sur les entrepreneurs pour changer les choses. Et ça, je trouve que c'est un message très positif. Alors, ça nous met une grosse responsabilité sur le dos. Mais en même temps, je pense que c'est presque une obligation pour nous aujourd'hui de conjuguer le fait de faire grossir nos boîtes et d'améliorer la société.
Merci à vous, Denis Jacquet, qui a remporté donc le Gussie Prize. Merci à Alain Rétière, fondateur de Trade Booster, Julien Lozano, fondateur de la plateforme de location immobilière Wheezy, Emmanuel Lafond, fondateur du cabinet de conseil Sparter H. Dans un instant, c'est le Loft Music.
C'est l'effet papillon.
Et c'est le chanteur Benabar qui fait son love dans quelques minutes avant avec Yvan Cujus. A tout de suite.
Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégât immense.